chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud.
Il n'y aura pas d'effondrement, Jacques. Lâchez.
Résistance et alternative au changement climatique. On en parle dans la chronique Plus chaud que le climat sur JetFM 91.2.
L'eau est partout. On la boit, on se lave avec, elle nous chauffe et nous éclaire, elle irrigue la nourriture que nous consommons. Chaque Française et Français en utilise en moyenne 140 litres par jour selon l'ADEME. À Nantes, l'eau potable est puisée directement dans la Loire et passe par une usine d'assainissement avant d'atteindre notre robinet. Seulement voilà, nos activités humaines ont un impact sur la santé de la Loire. Algues vertes, pollution, réchauffement, on parle de plus en plus des problématiques environnementales qui pèsent sur les océans. Mais avant d'atteindre le large, l'eau des fleuves et de leurs affluents est elle-même touchée par toutes ces problématiques. La Loire ne fait pas exception. C'est le fleuve le plus long de France et il est indispensable au milieu naturel et à nos activités. En octobre dernier, un documentaire a été diffusé sur France 3 intitulé « Les lanceurs d'alerte de la Loire ». Parmi ces lanceurs d'alerte, Catherine et Philippe Boineau. Elle est enseignante-chercheuse à l'Université de Tours, spécialiste de l'écologie des cours d'eau. Il est pêcheur, membre du Comité national de pêche professionnelle en eau douce. Nous les avons contactés.
Un grand cours d'eau comme la Loire, c'est en fait un ensemble d'éléments ou d'écosystèmes qui sont distribués en mosaïque, donc les uns à côté des autres, mais avec des interactions entre eux, dans une plaine alluviale. Et la plaine alluviale, c'est l'espace qui est compris entre les deux coteaux entre lesquels s'écoule le cours d'eau. Donc là-dedans, on va trouver aussi bien des écosystèmes qui vont être 100% aquatiques, les chenaux par exemple, qui restent toujours en eau, ou des écosystèmes terrestres qui, eux, ne sont inondés que très très rarement, peut-être une fois tous les 10 ans, comme les forêts de bois dur. Et en fait, entre ces deux extrêmes, milieux toujours en eau et milieux qui ne sont que très rarement en eau, eh bien on a une très grande variété d'écosystèmes qui vont être inondés quelques mois par an, ou d'autres quelques jours, ou d'autres quelques jours tous les 2 ou 5 ans. Donc en fait, la biodiversité dans le fleuve, il faut la voir comme toutes les espèces animales ou végétales, petites ou grandes, les bactéries, les champignons, les végétaux, les algues, qui vont vivre sur l'ensemble de ces écosystèmes. Donc on a par exemple des libellules, des écrevisses, des saules, des nénuphars, tout ce que l'on peut voir ou qu'on ne voit pas. Il ne faut pas oublier aussi tous les bactéries que l'on ne voit pas qui vont grandement participer au cycle de la matière organique. Donc, tous ces écosystèmes vont interagir entre eux, mais cette interaction, elle se fait bien évidemment dans l'espace, mais elle va se faire aussi dans le temps. Et l'élément fondamental de ces interactions, c'est le cycle hydrologique, c'est-à-dire l'alternance de basses eaux et de hautes eaux, et bien évidemment les crues. Donc nous les humains, avec la construction des barrages, que ce soit pour la production hydroélectrique, pour l'irrigation, pour l'alimentation en eau potable, on a modifié les régimes hydrologiques. Et tout ça, ça va constituer une perturbation majeure pour le cours d'eau. Alors tout le monde dit la Loire, grand fleuve sauvage, etc. Non, elle n'a rien d'un fleuve sauvage. C'est peut-être le moins anthropisé, mais elle n'est pas sauvage. Et on a le changement climatique qui va aussi être une menace pour les rivières, dans le sens où il va beaucoup modifier la température et l'hydrologie. Si on descend peut-être pas à l'échelle de la Loire, mais sur certains de ses affluents ou sous-affluents, les prélèvements pour l'irrigation, dans certains cas, peuvent conduire à des assèchements de plusieurs semaines de certains cours d'eau ou de plusieurs jours, ça dépend. Et le bassin de la Loire, il est majoritairement sur des régions tempérées. Et du coup, notre vie aquatique à nous, elle n'est pas du tout adaptée à ces assèchements, comme le serait la vie aquatique de cours d'eau méditerranéens qui suivent naturellement des phases d'assec. La troisième grosse pression sur nos écosystèmes aquatiques, c'est l'introduction d'espèces exotiques. Et parmi ces espèces exotiques, certaines peuvent devenir envahissantes et donc générer des pressions supplémentaires sur des espèces Et quand ces espèces ne se portent déjà pas très bien, ben, ça ne va pas forcément arranger la situation.
Comme l'a dit Catherine, des espèces exotiques introduites par l'homme ont effectivement déséquilibré la biodiversité du fleuve. D'autant que l'élévation de température engendrée par le changement climatique a nettement favorisé leur développement. Le silure, par exemple, cet énorme poisson dépourvu de prédateurs dans les eaux douces françaises, prospère. Il attaque des espèces endémiques, c'est-à-dire celles qui sont naturellement présentes. Autre exemple, la corbicule, un mollusque invasif, s'est mis à consommer le phytoplancton en masse, ce qui a déséquilibré la chaîne alimentaire. Pour ne citer que, le saumon a failli disparaître du fleuve et les populations d'anguilles sont nettement fragilisées. Mais les espèces venues d'ailleurs ne sont pas les seules à impacter la vie du fleuve. Les aménagements artificiels des cours d'eau, eux aussi, sont une source de perturbation. À ce sujet, on écoute maintenant Philippe Boineau sur la question de la morphologie des cours d'eau.
Les trois grandes causes de déperdition de l'eau, en fait, déperdition, c'est l'eau qui prise et qui va tout au milieu. Bah, c'est les centrales nucléaires, l'évaporation par les centrales nucléaires. Et ça, c'est réparti sur 12 mois de l'année. Le deuxième, c'est l'irrigation agricole pour l'agriculture intensive conventionnelle. Et là, le problème, c'est concentré sur 4 mois où il y a le moins d'eau. Parce que moins il pleut, plus les plantes, surtout le maïs, a besoin de compenser. Donc plus pour prélever dans des milieux qui sont sous tension. 80% de la consommation d'eau en été, c'est pour l'irrigation. 80%. Et le troisième domaine, c'est l'évaporation par les plans d'eau. Justement, les barrages, les carrières, tout ce qui a été créé comme plan d'eau artificiel et qui font que bon, on a des eaux stagnantes qui vont chauffer beaucoup plus l'été que si l'eau était restée courante et qui du coup va entraîner une grande quantité d'eau qui va s'évaporer. Donc elle va être perdue.
Merci Philippe. Ça fait beaucoup de perturbations pour les poissons tout ça. Pour les compenser, un système de bassins en escalier qu'on appelle passe à poissons est installé sur les barrages pour permettre aux espèces migratrices de les franchir et ainsi de remonter les cours d'eau. Dans les lanceurs d'alerte de la Loire, Pierre Portafay, l'un des responsables de l'association Logrammy qui analyse ces passes depuis une vingtaine d'années, s'exprime.
La station est en place depuis 2004. On a des variations très importantes sur les poissons migrateurs. Je peux vous citer la lamproie marine notamment. En 2007, on avait 50 000 individus donc sur une année qui remontaient pour aller se reproduire au-dessus. Cette année-là, en 2019, c'est seulement 6 lamproies marines qui sont remontées. Alors ça a du sens de s'intéresser aux poissons migrateurs, parce que c'est des poissons, en fait, quand on va réussir à les préserver, on va préserver toute la faune qu'il y a autour, ce qu'on appelle en écologie une espèce parapluie. Donc tous les autres poissons qui vont être autour vont profiter des actions qu'on va mener sur les poissons migrateurs. Nous, on a sonné l'alerte depuis maintenant une dizaine d'années sur la diminution des effectifs, mais il y a aussi des enjeux forcément économiques sur la pêche. Et il faut arriver quand même à trouver un bon compromis, parce qu'à force de prélever la ressource n'existera plus.
Parlons maintenant d'un autre problème dont on a déjà tous entendu parler, celui des algues vertes. Ce que l'on sait moins, c'est comment elles en viennent à tant proliférer. En fait, la réponse se situe du côté du nitrate. Le nitrate, c'est un composé chimique notamment utilisé par certaines formes d'agriculture. Le lien avec la Loire, c'est qu'à cause de la pluie, ce nitrate pénètre les sols et s'écoule jusqu'au cours d'eau. Dans le fleuve, les plantes aquatiques s'en nourrissent tout comme le font les plantes terrestres. Ultra nourries, ces algues se mettent alors à pulluler et envahir les écosystèmes. En plus de ça, ces quantités d'algues finissent par atteindre l'océan. Une fois qu'elles meurent, elles se déposent sur les plages. Elles se transforment alors en immenses tas de débris végétaux. À force de sécher à l'air libre, une croûte se forme à leur surface, rendant tout le dessous imperméable aux échanges gazeux. Sous l'effet de cette fermentation anormale, lorsque la croûte se perce, sous le poids d'un homme ou d'un animal par exemple, des émanations toxiques s'en échappent. Ces émanations peuvent être mortelles. En plus des nitrates, d'autres indésirables viennent polluer les eaux du fleuve, notamment les médicaments. Philippe Boineau va nous en parler.
Le souci maintenant, c'est les molécules de résidus de dégradation des molécules chimiques médicamenteuses, par exemple, qui posent problème. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de ces molécules médicamenteuses, notamment les hormones, hein, les hormones liées à la pilule, par exemple, contraceptive, qui perturbent considérablement la biologie d'un milieu aquatique. Dans les sur la Loire, on sait qu'il y a des espèces comme le flette, un poisson plat, et l'anguille, ça provoque de graves perturbations des hormones dans ces espèces, C'est qu'on a des mâles qui produisent des gamètes femelles et inversement des femelles qui produisent des gamètes mâles ou des individus qui produisent rien du tout.
Alors, qu'est-ce qui est fait pour améliorer la situation ? Nous avons contacté l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui travaille à l'échelle de tout le bassin hydrographique de la Loire et de ses affluents, soit 28% du territoire métropolitain. L'agence de l'eau a un rôle d'accompagnement technique et financier des projets de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Nous avons interrogé Bernadette Doré, directrice de la délégation Maine-Loire-Océan, basée à Nantes.
L'idée, c'est de travailler à l'échelle d'une agglomération comme l'agglomération nantaise, un peu sur tous les volets. Donc à la fois l'amélioration de la qualité sur le volet assainissement, sur le volet gestion intégrée des eaux pluviales, sur les questions d'économie d'eau. Et on travaille également sur le volet milieu aquatique, puisqu'il y a plusieurs cours d'eau qui arrivent directement à la Loire. Et donc sur chacun des bassins versants, on mène également des programmes d'action qui vont être des programmes d'action de restauration, cette fois-ci, des cours d'eau et des milieux aquatiques.
Et au fait, qu'est-ce que c'est la gestion intégrée des eaux pluviales ?
Ce qu'on appelle, nous, la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est-à-dire faire en sorte que plutôt que d'envoyer les eaux qui tombent, l'eau de pluie qui tombe directement dans un tuyau, c'est de faire en sorte qu'elle puisse s'infiltrer. Et on parlait tout à l'heure d'imperméabilisation. Donc l'idée, c'est aussi, à l'occasion de rénovation de certains quartiers, de désimperméabiliser certaines surfaces et de pouvoir retenir l'eau à la parcelle et faire en sorte qu'elle s'infiltre. Et puis c'est souvent aussi l'occasion de réaménager les quartiers avec davantage de biodiversité. Et quand on parle de changement climatique, c'est vrai que ben voilà, avoir autour, au sein de la ville, des espaces qui ne concentrent pas des îlots de chaleur, mais qui au contraire vont redonner, en tout cas, un environnement plus favorable et plus agréable dans ces périodes de forte chaleur. L'idée, c'est de faire en sorte que les cours d'eau puissent retrouver un fonctionnement plus naturel, donc avec des actions de restauration. On va essayer de reméandrer le cours d'eau, de lui redonner de la dynamique et de redonner vie au fonctionnement, ce qui améliore aussi les capacités d'épuration naturelle, ce qu'on appelle, nous, les services rendus par la nature. Et donc, c'est le cas quand un cours d'eau fonctionne, je dirais, plus naturellement.
Et d'ailleurs, si ces questions vous intéressent, un projet de rééquilibrage du lit de la Loire va être lancé. Et une enquête publique à compter du 1er avril et jusqu'au 7 mai est disponible en ligne. Je vous invite à aller participer à cette enquête et je laisse Madame Doré nous en dire un peu plus.
Comme vous le savez, au cours des 19e et 20e siècles, la Loire a fait l'objet de nombreux aménagements pour favoriser la navigation. Couplés à l'extraction industrielle de sable, ces aménagements ont profondément bouleversé l'équilibre et la dynamique du fleuve, d'où la nécessité de mettre en place un programme de rééquilibrage du lit de la Loire. Ce projet représente l'aboutissement d'un large travail préalable. Il y a eu de longues études, des expérimentations, des modélisations. Et cette réflexion a été menée avec tous les acteurs du territoire dans le cadre d'un contrat qu'on appelle le contrat pour la Loire et ses annexes, qui s'inscrit plus largement dans le plan Loire Grandeur Nature. Alors sur la période à venir, donc 2021-2023, il est prévu un programme d'action de 42 millions d'euros qui va concerner trois secteurs d'intervention, avec la transformation d'ouvrages existants sur le fleuve, afin de lui redonner plus de liberté et permettre un meilleur dépôt des sédiments.
Un animateur de bassin versant et citoyen nantais préoccupé par la situation nous a proposé un point de vue. Voir le fleuve comme un être vivant qui a besoin de respirer, d'avoir une bonne circulation sanguine et d'être libre pour bien fonctionner. Aujourd'hui, la Loire, fortement impactée par nos activités, ne respire plus. Or, nous avons besoin qu'elle vive pour vivre nous-mêmes. Il est temps de la réanimer en redonnant sa place à la nature, au vivant et au fonctionnement naturel du cours d'eau. Voire même en donnant une personnalité juridique à la Loire, pourquoi pas? C'est ce que propose le Parlement de Loire. Ça s'est déjà fait ailleurs, en Inde et récemment au Canada. Ce serait une première en Europe. Pourquoi pas?
On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud.
Il n'y aura pas d'effondrement, Jacques. Agis.